Nous sommes mercredi 25 septembre 2024, vous n'avez pas encore un vrai gouvernement et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Zergy.
Salut.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Bonsoir Renard.
Bonsoir.
Et bonsoir Antix.
Bonsoir.
C'est l'équipe au grand complet, la Dream Team au grand complet, j'ai envie de dire.
Ah, il nous manque Jean-Fulgence.
Il nous manque Jean qui va peut-être arriver, parce qu'il a dit mais mercredi il y a deux obas. Je fais bah, tu viens si tu veux, ma gueule. Voilà. Pour ce dojo bar de rentrée qui arrive un peu tardivement, alors pour information, c'est la plus longue pause de dojo bar qu'il n'y ait jamais eu de l'histoire du dojo bar. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment arrêté au printemps dernier et on reprend, on est en automne. C'est vraiment, on a passé absolument tout l'été.
On s'est arrêté fin juin,
non? Ouais, c'est ça, on s'est arrêté au printemps.
Bon, globalement, par rapport au gouvernement français, on a duré. On a la pause, c'était moins longue.
Ah,
GG.
C'est ça, on a duré plus longtemps. On a vraiment duré plus longtemps que le gouvernement.
Incroyable.
50 et quelques jours pour se décider à faire de... Bon, bref.
Mortel s'entraîne pour son futur poste de sénateur.
Ça vous ferait marrer. Hein.
On va se marrer ce soir.
N'empêche que vous ferez moins les malins. Bref. Donc, on va simplement parler des jeux de l'été, les jeux auxquels on a joué pendant l'été, donc du 21 juin au 21 septembre précisément. C'est vraiment exactement ça.
J'ai eu le temps de me torcher, hein, avec...
On a eu le temps de se torcher. Il y a plein de gens qui ont eu le temps de se torcher avec plein de trucs. C'est ça qui est bien.
Incroyable.
Voilà. Plein de gens avec notamment un truc qui s'appelle la Constitution, je sais pas si vous connaissez.
Et puis accessoirement Sony avec Concorde.
Et ben voilà. Alors, on va commencer par le tour de table de l'actualité. Je vais donc lancer Zergy, qui a, je crois, un amour renouvelé pour Sony depuis cet été. Puisqu'il va nous parler de Concorde et de la PS5 Pro. J'ai failli oublier celle-là, putain, c'est vraiment...
En fait, Sony nous a fait rire cet été. On se demande s'ils n'ont pas ressorti Ken Kutaragi du placard. Ils nous ont fait la PlayStation 3 2 avec la PS5 Pro qui est à 800 balles, sans lecteur de disque. Merci. Et ils ont battu le record de speedrun de jeu qui a capoté le plus vite, quoi. From sortie du jeu, tout fermeture des serveurs en 2 semaines.
Ça c'est un sacré score.
Surtout qu'en plus, il y avait une version physique.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu des gens qui, notamment sur le subreddit Game Collecting, où il y a plein de gens qui ramassent plein de trucs, qui disaient « Putain, c'est cool, en fait, on peut vraiment choper le jeu PS5 Concorde à moins de 3$ maintenant. » Parce que, bah voilà, c'est vraiment... c'est un dessous de verre, quoi. Tu peux rien en faire d'autre.
C'est que multi, en plus. Je crois que c'est que multi.
Hein. Mais du coup, il y a des gens qui ont vraiment juste acheté le jeu pour dire « Ah, j'ai le plus gros échec de l'histoire de Sony, et je l'ai payé pas cher, en plus. »
T'as un bol de bière pour 3$.
Il y a même, de ce que j'ai entendu parler, des gens qui avaient pris le jeu et qui voulaient le platiner, du coup, qui n'arrêtaient pas de se tuer pour pouvoir avoir de l'expérience rapidos.
Putain, ça sent le jeu bien fait, quoi. 150 millions de dollars, alors certains disent 400 millions, apparemment, mais j'ai du mal à croire aux chiffres.
8 ans de dev, surtout.
8 ans de dev, surtout, mis à la poubelle en l'espace de 2 semaines, parce que ça marche pas assez bien, quoi.
Alors, je peux comprendre que les développeurs, je sais pas à quel point ils sont contents de leur jeu, mais quand t'as 8 ans de travail qui part en fumée, en l'espace de 2 semaines, ça doit être dur, hein. Moralement.
Je pense que oui, ça doit être compliqué, mais surtout que le studio va probablement être fermé, enfin, c'est pas déjà le cas d'ailleurs, je crois.
Oui, parce que c'est la mode en ce moment.
Oui, alors on en reparlera.
C'est un beau bordel.
Je vais justement. Alors, tiens, Antix, tu voulais nous parler de deux choses, Guilty Gear Strive et Unity. On revient sur Unity un an plus tard.
Alors, on commence par quoi?
Alors, vas-y, Unity, c'est le plus drôle, je pense.
Complètement Unrelated, puisqu'en plus, c'est même pas le même moteur. Du coup, Unity, il y a un an, je pense que, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient annoncé qu'ils passeraient sur une nouvelle façon de rentabiliser l'utilisation du moteur, qui n'était plus des abonnements, mais une partie des revenus pris sur les ventes de jeux. Si mes souvenirs sont bons.
Non, à l'installation.
À l'installation.
Ah oui, c'est encore pire, du coup. Et pour les jeux gratuits, t'es niqué.
Voilà, et en plus, ils disaient, quand on leur demandait, comment est-ce que vous saurez qu'on installe, ils disaient, trust me, bro. Donc,
Voilà, en gros, c'était eau de voie mouillée, une évaluation, on t'envoie la facture, l'enfer. Donc ça, c'était en septembre 2023, flash forward un an plus tard, 12 septembre, on apprend qu'ils vont revenir en arrière sur cette décision et revenir sur une tarification classique par abonnement. Ce qui se concrétise aussi avec le fait qu'une bonne partie des personnes qui ont pris cette décision n'est plus au conseil d'administration. Et parce que ça me fait un petit peu rire, je vais vous citer Mark Bloomberg, qui est donc à la tête d'Unity depuis le mois de mai. « Nous ne pouvons pas poursuivre notre mission en étant en conflit avec nos clients. » Bah putain, t'es un génie, mec. « Nous devons mettre en place un partenariat fondé sur la confiance. »
Waouh.
Le bullshit en fait est à son maximum.
Ah non, mais attends,
ça faire prout.
C'est un peu ça. On a quand même un exemple de déchitification, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, le truc devient moins pourrave.
En fait, tu passes quand même d'un moteur qui est quasiment qui est un standard du marché, hein, parce qu'avec avec Unreal, c'est un des plus utilisés,
oui.
À un truc où tous les devs te disent, bah, on va aller voir ailleurs, en fait.
Mais ça a peut-être d'ailleurs contribué directement ou indirectement au succès de Godot,
Godot.
Oui, c'est ça. Moi, je dis Godot. Je sais pas si c'est Godot.
Je sais pas non plus. Je crois que c'est Godot parce que c'est le nom. C'est comme ça qu'on prononce Godot, le personnage
d'ailleurs,
de Saturnet.
L'an dernier. Peu de temps après l'annonce de Unity, tu avais le Humble Bundle qui avait des bouquins sur Godot à vendre.
Oui, non, mais voilà, c'est.
Ouais.
J'ai l'impression que le truc a le vent en poupe. Ouais. Alors, d'abord, parce que ça a l'air d'être très bien fait, il faut le dire, ça a l'air d'être un logiciel de qualité.
Oui, oui.
Open source.
Je l'ai. Tout à fait. Je l'ai Godot, je trifouille un peu avec lui. Il y a aussi l'avantage d'avoir sa propre langue de programmation qui est hyper accessible, très honnêtement.
C'est ça. Donc ça a peut-être aussi contribué un peu à ce succès-là, parce qu'il y a peut-être quelques développeurs qui se sont tournés vers ce moteur open source qui fait pas chier, qui marche.
Ça l'a clairement mis en lumière. Hein. Ouais.
Donc je pense qu'effectivement ça a commencé à chier dans son froc chez Unity. Hein,
mais c'est bien Humble Bundle, on pourra en reparler juste après avec Annapurna. Oui, c'est déjà de rappeler d'un truc alors c'est déjà. Mais bref.
Bah, allons-y, Guilty Gear Strive donc.
Donc encore une fois, aucun rapport fils unique puisqu'on parle d'un jeu Unreal Engine, qui doit être Unreal Engine 4 d'ailleurs. Excellent jeu de combat sorti sur PlayStation 4 en 2021, auquel je joue encore très régulièrement. Réalisé par Axis Systemworks, qui sont notamment derrière BlazBlue et Dragon Ball FighterZ, et donc Guilty Gear Strive, c'était leur dernier gros jeu de leur franchise à succès, donc en ce moment qui a dépassé les 3 millions, ce qui est assez exceptionnel hein, pour Guilty Gear. Il était habitué à dépasser les 100 000 que une fois tous les 36 ans. Et du coup, il a été annoncé sur Switch, dans une version qui a forcément été un petit peu downgradée, qui a fait quelques petits compromis, mais au niveau des modèles des personnages, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même très proche de ce qu'on peut avoir sur un PC. Qui bénéficiera d'un rollback netcode, donc comme le jeu de base, qui est très très bon. Et surtout qui sera disponible avec les 3 dernières saisons de DLC, ce qui fait qu'on devrait avoir une vingtaine de personnages disponibles dès le lancement du jeu. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment un super jeu de combat.
Cool.
Le seul défaut, c'est qu'il ne sera pas crossplay.
Oui, après, s'ils s'en vont suffisamment, pourquoi pas, c'est un peu dommage.
Je sais pas si c'est pour des garçons de perf ou pas, probablement, mais bon, voilà, sachez que si vous prenez Strive sur Switch, vous attendez pas à avoir forcément beaucoup de monde en ligne. Par contre, si vous avez des gens avec qui vous avez envie d'y jouer, ben, vraiment, c'est un super chouette jeu de baston qui est plus accessible que ses ancêtres, qui a un mode tutoriel assez complet. Qui est un peu chiche en contenu solo, mais moi je m'amuse vraiment bien sur le gameplay. Je trouve que c'est un des jeux de combat sur lequel j'aime le plus revenir, même si je fais pas de gros tryharder dessus, et qu'il y a des personnages super cool à jouer, que ce soit une gamine avec des yo-yo qui traversent sous l'écran, ou un vampire dandy qui met des énormes patates aux gens.
Et canoniquement, ne perd jamais, il ne fait qu'abandonner.
Oui, c'est ça. Bon, les personnages de Guilty Gear, c'est particulier. Hein.
C'est très particulier.
Ça a l'air effectivement très chouette. La série Guilty Gear, de manière générale, c'est assez chouette. Donc ça va que ça fait plaisir de le retrouver sur Switch dans une édition sympathique en plus.
Ouais, j'ai le tout premier. Même à l'époque, il était très, très sympathique.
Sur Switch, il y a aussi une vieille version.
XX, je crois.
C'est XX Accent Core plus R.
Oui, parce que ça,
dans le titre.
Quoi,
hein. Alors voilà, par contre, les titres à rallonge, ils connaissent bien nos petits kinks au dojo. Hein,
c'est ça, voilà, là, ils ont été raisonnables sur le dernier.
Dans la version triple X.
Oula, oula. Alors, ne tapez pas ça sur un moteur de recherche, s'il vous plaît.
Oui, mais du coup, oui, Accent Core plus R, qui est aussi une très bonne version, enfin, qui est aussi un excellent jeu de combat, à peu près aussi bien que son nom est à rallonge.
Tout à fait. Je vais enchaîner avec Monsieur Renard qui voulait nous parler de Soul River, Legacy of Kain.
C'est exact.
Les deux.
Legacy of Kain, Soul River, les deux qui sont annoncés pour avoir un remaster sur toutes les consoles. Sur toutes les consoles et toutes les plateformes, pardon. Du coup, ce sera un remaster du premier jeu qui, pendant un très long moment, était bloqué que sur PlayStation et Dreamcast. Et le second, qui lui était quand même resté disponible sur Steam et GOG. Par contre, on n'a pas de nouvelles d'un remaster de Blue Domain, ni de Défiance.
C'est ça. Du coup, c'est Legacy of Kain Soul River, c'est bien ça?
Legacy of Kain Soul River, c'est exact.
D'accord.
Avec en plus quelques petits ajouts, par exemple une map, ce qui est bien pratique parce que très honnêtement, tu te perds. Et aussi, on peut choisir d'avoir soit les graphismes d'origine, soit les nouveaux graphismes. Et apparemment, il y aurait peut-être quelques ajouts, genre des Lost Levels. Et c'est des rumeurs. Voilà.
Ok, ok. Eh bien, je vais terminer ce petit tour de l'actualité avec deux petites choses un petit peu fun. Alors, fun, non. En fait, je n'ai pas l'habitude de faire du fun. La première, c'est que bah, durant tout l'été, on a eu encore des licenciements, encore et toujours. Il y a quand même une hémorragie assez inquiétante dans l'industrie depuis, je dirais bien, un an et demi. C'était en surchauffe, clairement, durant le Covid et un tout petit peu après. Il y a eu, je pense, beaucoup trop d'embauches dans certains cas. Et là, ça licencie à tour de bras. Donc on a GameStop qui a fermé Game Informer. Game Informer, c'est quand même un journal qui existait depuis plus de 33 ans. Donc ça fait quand même pas rien. Il y a Bungie qui a viré 220 personnes. Ça fait pas plaisir non plus.
Alors Bungie qui s'est fait racheter par Sony en plus il y a pas très très longtemps. Donc c'est plutôt une décision du propriétaire.
Il y a moyen. Ouais. Et en plus Meta, donc la maison maman de Facebook qui ferme Ready at Dawn, qui était le studio qui était notamment responsable de The Quarry, si je dis pas de bêtises, et 2-3 autres jeux.
Et du portage de Okami sur Wii.
Ah oui, effectivement.
De mémoire. Ready at
Dawn. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et la nouvelle un peu. En fait, c'est rigolo quand on te le dit comme ça, mais quand tu regardes les détails, c'est pas très rigolo. Annapurna Interactive va probablement fermer faute de salariés. C'est-à-dire qu'en fait, Annapurna Interactive appartenait à. Alors, je sais plus que le nom d'Annapurna, je sais plus quoi. Enfin, ça appartenait à une plus grosse société. Et ils ont voulu négocier pour obtenir une plus grande indépendance, en gros, pour se détacher de la maison mère. Et les négociations ont très mal tourné. Du coup, absolument tout le monde a démissionné. Donc ça fait quand même un peu bizarre de se dire qu'il y a des gens qui se barrent parce qu'ils sont pas contents. Annapurna Interactive, on rappelle, c'était Sayonara Wild Hearts, c'était Neon White, c'était généralement des jeux très expérimentaux, des jeux indés.
C'était Outer Wilds aussi.
C'est Outer Wilds.
Ah oui.
Stray, effectivement.
Pour le coup, c'était un label qui a pas mal monté ces dernières années parce qu'il faisait beaucoup de jeux qui sentaient un petit peu des sentiers battus, vraiment... Label indé, mais à l'inverse de Devolver, qui était très du sang de la guerre et des larmes. Là, c'était un peu plus, j'allais pas dire arty, mais tu sentais qu'il y avait une volonté de faire du jeu vidéo un peu différent, quoi.
Voilà, et du coup, c'est une bien triste nouvelle. Je ne sais pas si d'autres éditeurs reprendront la flamme. Alors, il y a quelques petits éditeurs, notamment allemands, notamment britanniques, qui aujourd'hui commencent, je pense à Heads Up, je pense à... je crois que c'est Maximum Entertainment, enfin voilà, il y en a d'autres qui prennent le relais à éditer effectivement des jeux pas forcément très très gros, et c'est très bien d'avoir des éditions physiques, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui prennent des risques là-dessus. Mais c'est vrai qu'Annapurna, ils ont quand même laissé une petite marque, c'est un peu triste. Alors peut-être que ça se reformera, l'équipe va être remplacée, hein, c'est possible, mais je me permets quand même d'émettre un petit doute.
Il y a Humble Bundle aussi, alors je sais plus si c'est des rumeurs ou si ça a été confirmé.
Ça a été confirmé, ils ont fermé leur branche pour faire du jeu.
Il y avait une partie
Humble
édition
Games,
et du jour au lendemain, les gens qui travaillaient avec eux ont plus de contact. Parce que tout le monde s'est fait, alors soit fait virer, soit s'est barré, mais en tout cas, voilà, ça a fermé aussi pour Humble Bundle, donc c'est un petit peu dur en ce moment, même pour l'édition de jeu indé.
Ce qui est un peu triste.
Bon,
bref, nous...
Coup, Je voudrais rajouter une petite nouvelle, parce que je suis le seul qui n'avait qu'une seule nouvelle, un tout petit peu plus joyeuse, c'est qu'on avait entendu parler de,
Tango Gameworks.
Tango Gameworks, qui s'était fait licencier, eh bien, ils ont été rachetés par l'éditeur Krafton, avec la licence Hi-Fi Rush, pour pouvoir faire un nouveau Hi-Fi Rush. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est vrai qu'elle était gratinée, celle-là, Microsoft, qui ferme les studios et deux jours après, qui dit « Oh, on aurait bien besoin de d'autres jeux comme Hi-Fi Rush. »
C'est bien dommage.
En plus, je crois qu'ils ont encore viré des gens récemment.
Ouais, non, mais c'est...
En plus, ils avaient promis qu'ils le feraient pas après avoir acheté Activision.
Ils avaient... Ouais, mais tu sais, ils ont promis à la FCC, ils ont croisé les... ils avaient les doigts croisés dans le dos, et puis voilà. Hein.
Ouais.
Bref. On va s'écouter un petit morceau, vous comprendrez pourquoi après, de la bande originale de Ace Combat 7, le morceau s'appelle Charge Assault. Alors, il y a énormément de compositeurs différents sur cette BO, malheureusement on n'a pas le détail de qui a composé quoi, donc je vous lance les noms des trois principaux compositeurs, c'est pas sûr qu'ils aient composé ce morceau, je vous le dis. Voilà, c'est Keiki Kobayashi, Ryo Watanabe et Mitsushiro Kidatani. Mais il y en a plein d'autres, il y a une vingtaine de compositeurs au total, compositeurs et arrangeurs, donc c'est quand même très 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 compliqué. Enfin, malheureusement j'ai pas les détails, mais les trois principaux c'est ceux-là. Voilà, donc c'est le morceau très très dynamique, hein, puisque c'est le morceau des combats, et donc ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc, nous allons entamer Los Ruegos de la Summer.
Yeah.
On remarquerait que je parle extrêmement bien espagnol.
Ah, si, si, ya yeah.
Si, señor.
Hola, ¿qué tal? A mí me gusta el pollo.
Gustas tú.
C'est non, putain. On avait dit pas Manuel Valls, ciao. Je ne sais pas si c'est non.
Faudrait faire la parodie de Lolita en catalan pour Emmanuel Valls.
Elle était tellement énorme.
Incroyable ce moment. Cherchez sur internet si vous ne connaissez pas. C'est la chaîne publique barcelonaise qui l'a faite.
Ah, parce qu'en plus, oui, c'était un truc.
Oh, enfin, putain.
Ah non, mais c'était extrêmement fort. Eh ben, on va commencer par ce à quoi on a joué qui n'était pas des vieilleries. J'ai séparé en deux morceaux les trucs un peu neufs. Et puis les trucs un peu plus vieux, bon, on a 2-3 trucs un peu mélangés pour des questions, on va dire, de logique et de simplicité. On va commencer par Mecton. C'était le dernier festival de Splatoon 3. Donc ça veut dire que le suivi du jeu, le suivi, entre guillemets, du jeu est officiellement terminé.
Voilà, donc a priori tout le contenu est là, il n'y aura pas de nouveautés, et toutes les prochaines saisons à venir seront des redites de saisons déjà passées.
Par contre,
2 ans après, pourquoi pas. Ouais, oui, a priori, il continue les saisons pour les catalogues, pour les petits goodies
cool,
à débloquer, des conneries comme ça. Je voulais surtout en parler parce que ce festival était absolument énorme. Alors, j'ai loupé le Big Run, personnellement, le Big Run qui était la semaine avant, où a priori, le niveau à défendre, c'était le niveau qui est devenu le hub pour le festival. Et donc, ce hub, c'était un hub complètement nouveau, avec le samedi de mini scène tout entourée de stands à la con, et le dimanche une grande scène avec les trois groupes, donc des trois Splatoon, vous savez, les deux duos de nana là qui font des chansons, donc les trois duos sur la scène en même temps avec une nouvelle chanson, des effets de lumière, des effets de foule, blablabla, c'était la fête.
J'ai vu qu'il y avait il y avait en plus plein de spectateurs là pendant le dernier grand concert.
Oui, c'est ça, des petits effets de foule sympatoches. Ah, le thème du dernier festival, donc ce coup-ci, c'était passé, présent ou futur. C'est le passé qui a gagné, on verra ce que ça donne dans le lore si un jour on a un Splatoon 4.
Je pense qu'un jour on aura un Splatoon 4. Effectivement, il faut se rappeler que la fin de Splatoon 2 avait influencé à la marge ce qui est devenu Splatoon 3.
Même la fin de Splatoon 1 qui a influencé le mode héros de Splatoon 2.
Pour les curieux, c'était la fin du Splatoon 1, c'était vous préférez machine A ou machine B. Enfin, c'était Ayo ou Oli. Big up à la team traduction française. Je ne sais plus qui a gagné, mais du coup, celle qui a gagné était présente dans le jeu. L'autre avait disparu dans le mode solo, fallait la retrouver. Et le 2, c'était quoi ? Chaos, Ordre.
C'était Chaos et Ordre. Et finalement, voilà, c'est Chaos qui a gagné et on s'est retrouvé. Voilà.
Et le DLC s'appelle la Tour du Chaos. Voilà, amusez-vous.
Non, la Tour de l'Ordre.
Attends, le Chaos qui a gagné, ça veut dire que c'est le héros de Final Fantasy, je serais jeune Paradise là.
Ça suffit. C'est non. Deux fois non.
Mais bref. En fait, les Splatoon, c'est un peu le live service de Nintendo, quand on dit.
Bah, c'est le live service Nintendo. Voilà.
Après, tu payes juste pour jouer au jeu et la majorité du reste du contenu ajouté est gratuit.
Voilà.
C'est quand même déjà pas mal.
Après, tu peux. T'as quand même les précédentes versions qui sont toujours disponibles. Moi, je me suis fait quelques parties de Splatoon 2 il y a quelques mois. Il y avait encore des gens. Alors que Splatoon 3 était sorti depuis bien longtemps.
Mais complètement. Non, mais de toute façon, enfin, à part Splatoon le premier sur Wii U qui, effectivement, là, c'est fini. C'est normalement voilà, il y a quand même le jeu n'est pas Splatoon 2 n'est pas mort, mais c'est sûr qu'il est un petit peu en sommeil finalement.
Voilà, bah, c'est un vieux jeu quoi maintenant.
Tout à fait. J'en vais enchaîner avec Monsieur Zergy qui va nous parler de Aero GPX. Qui alors si on en parle, ça s'est sorti sur PC je crois seulement
c'est
à ma connaissance.
Uniquement sur PC.
Mais ça ressemble beaucoup à F-Zero et ça c'est rigolo.
Voilà, c'est un peu la suite spirituelle de F-Zero GX. C'est encore en accès anticipé. C'est sorti il y a quoi, 2 semaines, je crois, en accès anticipé. J'y ai pas trop joué, donc je ferai pas en dire grand chose. Mais le peu que j'ai joué, il y a bien la sensation de vitesse qui est là. La seule différence avec F-Zero GX, c'est que les jauges de boost et de dommages sont séparées.
Oh là là, quelle honte!
Après, sinon, ça fera peut-être un peu trop copié.
C'est un peu trop copié. Ouais. Mais après, ça peut se gérer correctement aussi. Hein.
Oui, ça peut se gérer correctement. Et du coup, sur la piste, t'as des bandes qui te permettent de recharger ta vie et des bandes qui pour recharger ton boost de jump.
Donc, on peut faire des petites choses intéressantes. Alors, on a un petit tunnel Ace Combat, donc je vais laisser Renard commencer, puisque dans la section vieillerie qu'on fera après, mais du coup je l'ai laissé grouper là, puisqu'on a un petit tunnel Ace Combat, tu as fait Ace Combat 0 sur PS2.
C'est exact.
Qui n'est pas le premier épisode, hein,
non,
on le rappelle.
C'est avant le premier, parce que c'est le 0.
Oui, c'est techniquement
comme Star Fox.
Voilà, c'est le plus vieux dans la chronologie des Ace Combat, parce qu'il y a une chronologie, il y a tout
un univers,
il y a un lore, voilà, on est dans l'univers Strange Real, c'est le vrai nom, je ne déconne même pas, et donc il y a Ace Combat Hero, The Balkan Wars, qui a du coup, où du coup vous jouez le protagoniste Cypher, qui est aussi appelé le roi démon de la table ronde.
Mon dieu, je sens le truc, il va péter 10 fois plus haut que son cul.
Ah, mais non, il pète vraiment son cul, parce que dans Ace Combat, c'est Star Wars, mais avec des vrais avions. Genre, dans Ace Combat Zero, justement, tu as un laser de la mort qui tue, qui s'appelle Excalibur, il y a une obsession avec les chevaliers, du coup, la première fois qu'elle est introduite, tu dois te barrer, parce que sinon tu crèves, tout simplement. Et tout de suite après, tu fais un raid de façon étoile de la mort. T'as même plus loin dans le jeu une trench run, c'est-à-dire que tu as une tranchée et il faut que tu voles à basse altitude tout en évitant les ennemis.
Tu sens quand même que Ace Combat, c'est le grand n'importe quoi.
C'est du grand n'importe quoi. C'est la manière dont les.
La force, je confirme.
Oui, quasiment. La manière dont dont certaines personnes définissent Ace Combat par rapport aux autres jeux d'avion, Ace Combat, c'est un simulateur d'avion enjoué, en fait. glissez, vous prenez un avion et vous faites bah, c'est Ice Combat en fait.
C'est ça, c'est en fait ça peut être ça, c'est, si tu boostes, si tu pousses la difficulté, tu vas avoir plein d'éléments plus réalistes, plus entre guillemets simulation qui viennent se mettre, mais clairement les lois de la physique, tu leur dis d'aller se faire foutre quoi.
Oui, oui.
Et c'est ça qui est bon aussi hein.
Tu peux faire des pirouettes pas possibles. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Ace Combat 7, ils vous disent tout le temps « il faut, va falloir que je le dise à mon fils », etc. C'est parce que ton pilote, en fait, bah, il fait des trucs impossibles. Et aussi, tu as 400 missiles. Voilà. Tu,
mais non, mais ça, c'est normal.
Oui, tu utilises tes missiles, comme ta mitraillette, en fait.
En fait, c'est ma crosse.
C'est ma crosse. C'est ma crosse en avion.
C'est un peu ça.
On a, non, on a quand on, même on ce répète feeling, la base, hein. La réalité, c'est chiant.
Non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Moi, le simulateur de combat d'avion dans lequel tu dois décoller du porte-avions, passer 2 heures en vol pour arriver jusqu'au lieu de ta mission, lâcher une bombe, revenir, ça m'intéresse pas, tu vois. Alors que là, voilà. C'est le grand n'importe quoi de A à Z. Il y a des robots géants, il y a des avions géants, il y a des lasers géants, il y a des ascenseurs de l'espace.
Il n'y a pas de robots géants, je crois pas. À moins que ça soit dans Ace Combat 3, parce que c'est le plus loin dans la chronologie. D'ailleurs, Ice Combat 3, on a une version européenne, mais malheureusement, on a perdu un disque. Du coup, il y a toute l'histoire qui est passée au placard. C'est dommage.
Oh. Ouais. Bref, avec Mecton, nous, on a fait du Ice Combat 7 sur Switch, qui est un très bon portage d'un jeu qui était sorti sur PS4 en 2018 ou 19. Voilà, sur du Unreal Engine, d'ailleurs, c'est assez étonnant, et qui marche plutôt bien.
C'est assez bluffant.
Switch, ça tourne très bien, c'est assez bluffant. Mais il dit, c'est surtout les nuages sont assez ouf.
Oui.
Parce qu'effectivement.
Oui, donc, c'est... Techno True Sky pour nos amis développeurs qui nous écoutent. Et bah, c'est propre. C'est très très crédible.
C'est ça. Et le jeu lui-même, il est assez marrant quoi. C'est effectivement le grand n'importe quoi.
Ah oui. Mais, oui. Alors, c'est le Nawak. Vas-y, j'évacue le sujet tout de suite. C'est le Nawak au niveau de l'histoire. Et pour le coup, si tu arrives à la suivre, t'es un génie. Se passe en fait à coup de communication radio pendant l'émission, mais tu seras, je pense, ok avec moi. T'as autre chose à foutre qu'écouter Jean-Paul se plaint de son dilemme psychologique avec son papa pendant que t'es en train de bousiller une base en rase-mode, quoi.
C'est ça. Non, mais moi personnellement, c'est vrai que les jeux, mais c'est pareil pour Kid Icarus. Hein. Moi, ce que j'ai retenu du scénario, c'est pom pom boum boum, quoi. J'ai autre chose à foutre que d'écouter le scénar. Donc le mec qui dit, ah, je ne comprends pas, mon fils était donc dans ce désert avec sa maman. Et tout d'un coup, un tank est sorti. Et tiens, mais je m'en bats les couilles, mec. Je suis en train de poursuivre un mec qui est en MiG-23. Il est en train de me coller des missiles au cul. Ça, sincèrement, ton histoire, on branle, quoi. Donc c'est compliqué. En plus, pour une histoire, ça fait beaucoup de circonvolutions pour un truc qui, finalement, pourrait être résumé sur un timbre poste. Hein.
Bah, voilà, comme je le résumais, c'est la guerre, c'est caca.
Bon résumé, la guerre, c'est caca. C'est à peu près ça, hein. C'est vraiment... Mais bon, une fois qu'on a fait abstraction du scénario, le jeu
est marrant. C'est un gros kiff, les missions, il y a quoi, une vingtaine de missions?
C'est ça, 20 chapitres au total.
Donc qui se torchent en une dizaine d'heures, t'as des petites missions bonus qui sont un peu plus longues, un peu plus objectifs variables, on va dire. Pourquoi je disais ça? Oui, bah, les missions sont assez variées, donc sur la vingtaine, c'est assez rare que d'une mission à l'autre on s'ennuie, quoi.
Le seul truc qui m'a cassé les bonbons par rapport à une référence du genre qui est Rogue Squadron, hein, parce que là aussi c'est un petit peu le grand n'importe quoi, mais c'est le grand n'importe quoi Star Wars, donc c'est pas grave, c'est finalement tu ne pilotes que des avions de chasse, et j'aurais bien aimé moi piloter un hélicoptère, un bombardier, un machin, ça aurait pu être marrant. Quoi.
Bombardier, ça aurait été très cool.
Tu as un bombardier.
Dans Ace Combat 7. Oh,
pas dans le 7.
Ah, dans le 7, il n'y a pas le A-10 ?
Non.
Non, non, non.
Ah, c'est dommage, non, c'est parce qu'il est dans les autres. Et souvent, le problème, c'est que il faut pas prendre le Athènes alors que tu vas avoir tout de suite après deux Ace qui vont te coller au cul.
Non, non, là, tu en croises des bombardiers, c'est des cibles des cibles ennemies, quoi. Sinon, tout ce qui est attaque au sol, ça se fait avec un arbre de compétences qui se débloque au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, quoi.
Ouais, parce que t'as des missiles RR, air-sol, ce genre de choses-là. Ouais, des petites choses un peu fun.
Ouais. C'est très différent dans les plus vieux de Ace Combat. Tu as des missiles air-sol, mais c'est pas avec un arbre de compétences. Enfin, j'en parle.
Et je place l'anecdote tout de suite sur l'avant-dernière mission. Il y a une musique absolument incroyable. Donc le jeu était prêt à sortir et il a été reporté de quelques mois simplement parce que cette musique n'était pas prête.
Elle est assez mythique, souvent les gens connaissent plus la musique que le jeu.
Ah non, mais le truc est... Alors d'ailleurs, on ne passera pas l'extrait ce soir, je vous le dis tout de suite. C'est un peu ça. Je vais enchaîner avec Monsieur Zergy qui veut nous parler d'un petit jeu tout mignon qui aussi est sur PC, qui s'appelle Kitsune Tales, et qui, contrairement à son nom indique, n'est pas un jeu avec Tales de la série Sonic.
Mais avec un renard.
Mais avec un renard quand même.
Mais pas celui du podcast. Pas suivre.
Ouais, non, mais c'est compliqué. Zergy.
Ça fait beaucoup de renards. oui, Kitsune Tales, c'est un petit jeu indé qui est sorti cet été, je crois, au mois de juillet. Qui est dispo uniquement sur Steam pour l'instant. Comment dire, bon, c'est très inspiré de Mario Bros 3. C'est dans un univers japonais, donc si vous êtes un Weebs, ça vous plaira. Et ouais, l'histoire, elle est un peu gnognotte, mais bon, c'est du jeu de plateforme. On n'est pas là pour l'histoire, on est là pour les niveaux et pour le gameplay.
Et du coup, niveau et gameplay, ça ressemble aussi beaucoup à Super Mario Bros 3, quoi.
Ouais, pas mal. C'est clairement inspiré, hein, la personne qui a créé le jeu s'en cache pas du tout.
D'accord, donc comme Aero GPX ne cache pas sa parenté avec F-Zero X, finalement, on fait du neuf avec du vieux.
Oui, c'est ça, ouais. du bon vieux recyclage.
Et des fois, c'est bien, hein. Pensez au bac vert. Hein.
C'est ce que fait toute l'industrie, honnêtement. Hein.
Ouais, mais à la limite, quand c'est des fans qui le font avec une certaine passion, moi je trouve ça cool. C'est pour ça que j'avais regardé le jeu vite fait, je me suis dit, ah non, ça a l'air cool. C'est effectivement Super Mario Bros 3 sur PC. Mais pourquoi pas, si c'est bien fait, après tout.
Souvent, c'est des styles de jeu qui sont plus trop faits par les développeurs mainstream. C'est plus assez vendeur ou c'est pas assez ambitieux.
On avait fait toute une émission sur le Survival Horror. Oui, c'est ça, mais on avait fait toute une émission sur le Survivor Horror un peu niche, et en fait, on s'est rendu compte que c'est exactement ce que c'est quasiment que des indés qu'on a cités dedans. Parce que c'est un style qui n'intéresse plus grand monde, à part, effectivement, c'est un jeu un peu niche. Mecton, Outer Wilds, avec peut-être un petit bout de Antix pour t'appuyer.
Ah bah, avec plaisir.
Enfin dispo en physique.
Dispo sur Switch aussi.
Enfin dispo sur Switch, donc ouais, dispo sur Switch depuis 2 mois, mais enfin dispo en physique. Par chez Annapurna, encore une fois, big up et puis merci pour tous les gars, bonne chance pour la suite.
C'est big up, voilà, c'est ça, ciao.
So long, thank you for the fishes.
C'est ça, belle référence.
Comment définir Outer Wilds en peu de mots? Myst, en jouable, en intéressant. Avec un super mystère à éclaircir petit à petit.
Et la mécanique de temps de Majora's Mask.
Et la mécanique de temps de Majora's Mask. Parfait.
Ou d'un jour sans fin.
Ouais.
Oui, pour une référence plus filmique, mais.
Voilà.
Oh, putain, la vache, c'est le mélange a l'air space.
Et justement.
À propos de space.
À propos oui. de space.
Quelle transition.
Ça se passe dans l'espace, c'est incroyable. Donc c'est un monde, un espèce de monde système où tu commences sur une petite planète, et ce qu'il faut te dire, c'est que sur la boucle de 22 minutes, en fait, tu sais, si tu vois quelque chose à une seconde donnée dans la boucle, tu pourras y revenir après, ça se passera de la même manière. Il n'y a pas de coup de pute, quoi.
Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, au bout de 22 minutes, le soleil devient une supernova et détruit tout le système solaire.
Oui, c'est ça que j'avais compris, c'est que de toute façon, le jeu reset toutes les 22 minutes.
Voilà. Et la question, c'est en enquêtant sur une civilisation disparue, de trouver pourquoi, et peut-être d'essayer d'influer sur la chose.
On a bien dit peut-être.
C'est voilà, pas, et c'est compliqué le jeu d'en parler sans spoiler, parce que je pense que c'est vraiment une expérience à faire, c'est un truc qui se fait une fois.
Oui, et... ça sert à rien d'y retourner, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise en fait.
Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir quelqu'un y jouer pour la première fois, juste pour comparer les expériences, parce que tu es lâché, hein, tu es lâché, tu vas où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et il n'y a pas d'ordre précis à choisir, c'est à toi de récolter les indices, de les mettre dans l'ordre. Il y a un petit outil dans le jeu qui t'aide à ça, qui te fait en fait une carte mentale.
Très 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 bien d'ailleurs.
Ouais. Pour éventuellement te rappeler, bah ici t'as vu ça, peut-être que ça peut t'évoquer quelque chose, ou à tel endroit t'as peut-être pas tout vu, ça vaut le coup d'y retourner.
C'est assez bien fait, en fait, t'es quand même, enfin, faut se dire, on est dans un système solaire avec plusieurs petites planètes, enfin, accessible en vaisseau spatial. Le vaisseau spatial qui est en bois, hein, pour vous donner un petit peu une idée du niveau du truc.
Oui, il est en bois. Voilà.
Les planètes sont toutes aussi étranges les unes que les autres. Hein. On vous laissera les découvrir. Mais ce qu'il faut se dire, ouais, voilà, c'est qu'il y a pas mal d'informations à relier pour résoudre l'énigme que le jeu nous impose. Ça se fait petit à petit avec plusieurs... comment je pourrais dire ça? Il y a plusieurs trajectoires à suivre, en fait, pour assembler tous les indices. Donc c'est bien, si on est bloqué sur un aspect, on peut passer à un autre. Des fois, on tombe sur des trucs complètement par hasard aussi. Hein. Le jeu est quand même relativement bien fait là-dessus.
Et c'est intégré. Si tu peux tomber sur un truc au pif, il n'y a pas de souci.
Oui, l'histoire peut se découvrir dans le désordre, les indices dans le désordre, ça pose pas de problème, quoi, finalement.
Oui, c'est ça. Moi, ce que je vous recommande, par contre, c'est un jeu qui, mine de rien, peut pas être arrêté plusieurs semaines et être pris comme ça. Si vous avez une petite semaine de vacances ou que vous allez passer un week-end un peu tranquille, ne pas hésiter vraiment à vous mettre un peu à fond dedans. Donc en plus sur Switch, avec le fait de pouvoir l'avoir en portable, c'est un peu plus facile d'avoir ce genre de temps disponible. Mais voilà, faut se dire qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'heures à quand même rechercher ces infos, mais heureusement il y a l'outil interne pour un peu résumer de ce qu'on connaît pour s'y retrouver. Mais je sais que moi j'ai passé pas mal de jours d'affilée, enfin j'ai vraiment joué sur peu de jours, mais beaucoup. Et c'était quand même plus pratique comme ça.
Eh ben merci pour le conseil. Quand je m'y mettrai, je retiendrai. Faut pas le lâcher, faut pas le reprendre, sinon c'est le bordel. Monsieur Renard voulait nous parler d'un petit jeu qui s'appelle Nine Souls. Souls.
Oui.
Alors c'est sorti que sur PC, je crois, pour l'instant.
Que pour l'instant, oui. Mais peut-être que ça va changer. C'est un jeu de Red Candle Games, qui est sorti le 29 mai dernier, du coup. Les Red Candle Games étaient connus que pour des petits jeux horreur, troisième personne, et là ils nous pondent un Metroidvania très inspiré de Hollow Knight, et ils ne se cachent pas. D'ailleurs, à un moment donné, un des builds, le personnage principal qui s'appelle du coup Lee, il avait la taille de Hollow Knight, et du coup ils appelaient ça la phase Hollow Knight.
Oui, carrément, on se cache plus.
Voilà.
Quoi.
Voilà, en fait, j'étais un peu en manque de Metroidvania, et du coup, il y avait ce jeu que j'ai entendu parler, et je me suis dit, tiens, je vais me le prendre. Et il est très sympa. Beaucoup de gens comparent Hollow Knight à Dark Souls, parce que tu fais beaucoup d'esquives, le jeu est un peu compliqué, t'as le système où il faut récupérer ton ombre, là. Eh bien, on peut comparer Nine Souls à Sekiro, c'est-à-dire qu'au lieu d'esquiver, tu as une grande emphase sur la parade. Et ça rend le jeu très différent à Hollow Knight, mais aussi très satisfaisant. Genre, par exemple, je l'ai quasiment fini. Là, je suis en train de voir pour avoir la... Il y a une fin alternative, du coup, je cherche à avoir la fin alternative. Le boss final, je ne l'attaque pas. Je ne fais que des parades. Et j'utilise, du coup, l'équivalent des charmes du jeu qui s'appelle des jades, qui cause des dommages internes. Du coup, la vie du boss entre guillemets se réduit, mais n'est pas vraiment réduite. Et ensuite, il faut faire une attaque spécifique avec un talisman pour pouvoir juste exploser toute la barre d'un coup. C'est très satisfaisant.
D'accord. Donc on dit un mélange entre Sekiro pour le système de combat, Hollow Knight pour le côté Metroidvania, les charmes et tout ça. Effectivement, ça a l'air tout à fait sympathique.
C'est très sympathique. D'ailleurs, il y a eu un patch récemment pour avoir 10 langues supplémentaires. Jusqu'à présent, il était disponible qu'en anglais et en taïwanais, je crois. Parce que le Red Candle Game, du coup, ils viennent de Taïwan. Et d'ailleurs, il y a une très grosse esthétique de ce qui s'appelle Tao Punk. Grosso modo, c'est une esthétique un peu japonaise, taoïste, mais futuriste en fait. C'est de la sci-fi.
Oui, c'est le, voilà. Chaque fois qu'on te dit Neo Tokyo, c'est à ça que ça fait penser, quoi.
Pas vraiment. C'est à la fois plus traditionnel. Faut le voir pour comprendre, mais c'est très satisfaisant. Genre par exemple, tu as une espèce de une espèce de générateur. Et en fait, le générateur, c'est deux statues de forgerons qui frappent un bon coup et qui provoquent du coup la surcharge. C'est que des petits trucs esthétiques comme ça. Genre, l'esthétique participe à la fonction.
D'accord. Donc voilà. Effectivement, un truc très japonais.
Très asiatique, plutôt.
Oui, peut-être très asiatique.
Chinois, etc. D'ailleurs, il y a des idées un petit peu alambiquées dans le jeu. Petit spoiler. À un moment donné, en fait, j'ai dit que Red Comic Game, ils ont fait des jeux d'horreur. Eh bien, à un moment donné, tu dois passer par un corridor. Du coup, tu passes devant un truc où tu as un cerveau dans un bocal. Ok. Tu passes, tu reviens dans la salle. Tu repasses, tu reviens dans la salle. Là, soudainement, il commence à pleuvoir du sang du plafond. Tu te demandes ce qui se passe. Tu as une espèce de long screamer. Et juste, ça s'arrête. Et tu sais pas ce que c'est. Et tu es obligé de continuer le jeu pendant... Pendant 5 heures avec ça dans l'arrière, dans la tête, sans savoir ce que c'est. Et 5 heures après, tu as du coup la résolution, la continuité de ce petit moment-là, et tu te dis, ah oui, effectivement, ils ont fait du jeu d'horreur, oui. Je ne spoilerai pas plus, parce que il faut vivre le moment.
On va finir la section les petites nouveautés, avec une nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est sorti il y a un petit moment, mais que ça fait très plaisir. Il y a Zergy qui s'est mis à Chants of Senar, et je sais qu'Antix a... Alors je sais pas si tu l'avais fini.
Moi j'ai passé un dimanche dessus avec 38 de... Enfin, après mon 38 de chef de la veille, autant dire que je l'ai fini.
Voilà, donc je sais pas si vous voulez nous parler un petit peu de Chants of Senar, nous expliquer un petit peu le principe et tout ça.
Non, moi je vais accrocher, je vais pas en parler, non je déconne. Chants of Senar, du coup, le concept est simple, on se réveille à un personnage encagoulé dans une espèce de tour qui est 100% inspiré de la tour de Babel, hein, jusque dans le concept même du jeu, puisqu'en fait, à différents étages de la tour, on a différents groupes de personnes, des croyants, des scientifiques, des guerriers. Et ces gens parlent des langues complètement différentes et ne se comprennent pas.
C'est con ça, hein.
C'est quand même bête. Et du coup, dans ce jeu dans lequel il n'y aura aucun combat, on va devoir avancer dans les différentes sections de la tour en déchiffrant les langages, enfin les différentes langues, et notamment les différents caractères de chaque langue, pour pouvoir progresser, et aussi, parce que c'est un peu une mission annexe, relier un petit peu les peuples entre eux. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. Si vous avez joué à Return of the Obra Dinn, on est sur une logique un peu identique. Notre petit héros a un carnet qui va remplir avec des dessins à certains moments du jeu, quand il va réussir certaines actions. Donc les dessins, ça peut être... ça correspond souvent à des actions auxquelles va falloir associer les caractères issus de la langue de chaque personnage. Donc souvent, un caractère égale une idée, hein, comme dans le chinois ou dans le japonais. Et quand on réussira à associer les bons caractères à la bonne image sur toute une page, donc généralement c'est 3 ou 4 images, bah on va se retrouver à se faire valider ce caractère. Et dans les dialogues, quand on passera la souris ou le curseur sur les bulles de dialogue, le mot qu'on a trouvé en fait va apparaître, ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à comprendre ce que nous disent les gens. Sauf si on a réussi à comprendre un petit peu au début, puisque le jeu quand même est très bien fait, hein, au fur et à mesure on donne quand même des indices, on peut comprendre avec la gestuelle, le contexte. Vraiment très 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 malin.
Tu peux mettre tes suppositions aussi.
Oui, et ça c'est très très cool, surtout si bah, des fois tu peux complètement te tromper, mais c'est assez chouette. Et du coup, c'est comme ça, voilà, sur à peu près 7-8 heures, ça s'arrête vraiment, je pense, au bon moment. Alors, moi j'avoue que j'en aurais aimé un petit peu plus, mais je pense que ça aurait été rapidement redondant, parce que quand on fait 5 langues différentes, on en commence quand même à avoir fait le tour. Hein. Mais du coup c'est un jeu qui est vraiment chouette, qui a une très belle DA, des environnements assez variés, même si on est toujours dans une tour, hein, chaque groupe a un peu son esthétique.
Stop.
Excellent. Excellent, et le seul défaut du jeu, je dirais, c'est des séquences d'infiltration qui sont pas très réussies. Pas très très intéressante, c'est assez facile, mais c'est plus fastidieux qu'autre chose.
Heureusement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, par contre.
Non, c'est surtout au début du jeu, à la fin, ils ont un peu laissé tomber l'idée, j'ai l'impression, ils ont vraiment assumé leur truc jusqu'au bout. Et peut-être une fin... une séquence de fin qui fait un petit peu... On a rallongé un petit peu, histoire d'avoir 1 heure de jeu en plus. Mais vraiment, j'ai vraiment été très surpris. C'est un jeu français. Donc
Pas
j'en
mal,
ai.
non?
C'est pas mal, non? Qui a notamment eu pas mal de suivi. Alors, moi, j'écoute beaucoup Silence on joue, le podcast de Libération. Ils ont même interviewé les devs. Ils ont justement une émission du podcast consacrée à ces interviews, si ça vous intéresse. Et vraiment, c'est super chouette. Moi qui ai adoré Obradine, de par son concept d'enquête et de résolution, bah là j'ai trouvé un système un peu similaire, mais sur une autre idée, et c'est vraiment très très malin. Et ça fait partie des rares jeux qui a passé le test de la copine, parce que je l'ai fait un peu jouer, et elle a dit, oh, c'est vraiment super.
Voilà. Comme quoi les jeux vidéo c'est que des trucs violents pour les mâles alpha.
Exactement.
Voilà. Zergy, il me semble que le commentaire que je t'avais vu, enfin que j'avais vu au sujet de ce jeu de ta part, était ça fait quand même un peu fondre le cerveau. Est-ce que tu veux essayer d'élaborer un petit peu?
Oui, mais juste un peu.
Juste un peu, donc ça va, finalement t'as réussi, c'est
Oui, ça
peut-être.
va. Ouais, t'arrives quand même à déduire, et puis des fois, tu vas un peu au forceps, ça passe.
Ok.
Enfin, en fait, vu que le jeu te valide les pages de traduction, si t'as trouvé les bonnes correspondances, ça aide quand même. T'es jamais tellement dans le flou.
Ouais, d'accord, c'est quand même
T'es jamais dans le flou total, en fait.
un peu plus cadré que ce qu'on imagine. Bref, avant de faire le petit tour des vieilleries, on va expédier assez rapidement en toute dernière partie d'émission, on va s'écouter un autre petit morceau de la bande originale de Ace Combat 7. Il s'agit de la musique qui s'appelle Space Elevator. Je vous expliquerai pas pourquoi il y a un ascenseur de l'espace. C'est ça, il y a un ascenseur de l'espace et on comprend rien. Et c'est très important de détruire l'ascenseur de l'espace parce que l'humanité ne
Il
pourrait pas
faut.
se relever si jamais les gens apprenaient à quoi ça sert réellement, c'est-à-dire à générer.
À générer du scénario.
C'est presque à générer des pages de scénario.
Ah si, à générer une dernière mission du jeu qui est géniale.
Oui, voilà. La dernière mission est juste totalement. Et là, c'est là que tu vois le truc bien délirant. Parce que, effectivement, rentrer dans un tunnel avec un avion de chasse. C'est
Et l'avantage que ce soit la dernière mission, c'est que
C'est ça.
détruire l'ascenseur spatial ne te permet pas de réfléchir aux conséquences de détruire un ascenseur spatial.
C'est
C'est
ça. Non,
ça.
mais c'est ça qui me.
Répasse ça, Tom Cruise.
Ne pas oublier de mettre du Freebird quand on refait la mission.
Oui, tout à fait. Allez, Space Elevator, donc Ace Combat 7, ça dure un petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Cette dernière partie d'émission, on va rapidement passer sur les vieilleries, hein, puisqu'il y a deux, trois vieilleries auxquelles tout le monde a joué. Alors, pas forcément des vieilleries très, très, très vieilles, mais parfois des vieilleries très, très, très vieilles. Juste voilà, tous un petit peu de rétro cet été, donc je me suis dit, on va essayer de grouper ça. Du coup, on va passer rapidement. C'est souvent des jeux dont on a déjà parlé ou qui ont quelques années, donc c'est pas forcément toujours aussi intéressant que ça. Peut-être qu'il y en a sur lesquels on reviendra par contre, parce qu'il y a quand même des petits trucs un peu rigololes. Alors, on va commencer par Monsieur Antix, qui a donc fait Fire Emblem Mystery of the Emblem sur Super Nintendo, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait tiré, alors même qu'il existe un remake sur DS. Pourquoi cette version Super Nintendo? Et ben en fait,
C'est plus facile à émuler.
Bah, pas spécialement, mais rendons gloire à César, ce qui appartient à César. Esquive la boule de feu a fait une courte review d'environ 2 heures et demie à ce sujet. Avec de très bons arguments qui m'ont plutôt donné envie de faire la version Super Nintendo, qui en plus a une direction artistique quand même beaucoup moins dégueulasse que la version DS.
La version DS est quand même cradingue, hein.
Et alors c'est un jeu, j'ai jamais trouvé la motivation de faire les vieux Fire Emblem avant la Game Boy, parce que souvent t'as des mécanismes un peu datés, tu sens que niveau option de qualité de vie, ben, tout est pas là. On parle d'un jeu où quand je passe mon curseur sur un personnage, je ne sais même pas combien il a de points de vie.
C'est austère, hein, c'est ultra austère.
C'est extrêmement austère. Merci l'émulateur pour les accélérateurs, pour les save stats. Merci Serena's Forest pour le guide. Mais en vrai, c'était une super expérience. Alors, Mysterious Emblem sur Super Nintendo, c'est un jeu assez intéressant parce que il est découpé en deux campagnes. La première qui est un remake du premier jeu, avec des trucs en moins. Ils ont un peu streamline le premier épisode en tirant les missions un peu inutiles, retirant quelques persos. Et en fait, en 20 chapitres, c'est terminé. Dès que tu le finis en 15 d'heures, c'est assez cool. Et ils ont rajouté la suite avec, qui est vraiment le gros morceau hein, de l'épisode. Et tu sens que c'est la partie qui est vraiment bien faite parce que c'est beaucoup plus agréable à jouer. Qui, elle, va raconter la suite de l'histoire et va développer surtout le lore un petit peu du monde de cet épisode de Fire Emblem qui est l'épisode... quand longtemps était l'épisode préféré des Japonais, Marf est le héros. Donc c'est son histoire en deux parties. Et c'est assez chouette en fait de faire les deux campagnes à la suite, puisque t'as des personnages de la première qui reviennent dans la deuxième, évidemment, mais c'est pas ils reviennent pas forcément en jouable. T'avais des personnages jouables qui en fait sont des PNJ dans l'épisode d'après, voire sont carrément des ennemis pour certains. Et t'as des personnages qui étaient des ennemis avant qui deviennent des alliés dans l'épisode d'après, et c'est assez chouette de voir un peu cette évolution. Et le dernier petit truc que je trouvais cool, et je trouve qu'il manque un peu dans les Fire Emblem actuels, c'est que t'as pas mal de secrets, de petits trucs cachés, quand tu vas parler à la bonne personne, quand tu fais certaines actions. Et moi j'aime bien les secrets dans les RPG.
Voilà, la zone secrète dans le RPG, c'est marrant. Mais effectivement, ça a l'air d'être une espèce une espèce de gros best-of Fire Emblem en fait, ce truc là, puisque t'as effectivement le remake du premier plus une histoire complémentaire, et ça fait l'arc de Mars complet en fait.
Ouais, mais en fait faut se dire ça qu'ils ont fait ça en 94, il y a 30 ans, alors que le premier épisode était sorti en 90, quoi. Donc vraiment même pour son époque, c'est un peu un phénomène particulier, quoi, de sortir un remake et sa suite dans le même jeu.
Et c'est voilà, il y a peut-être un petit truc à faire. Je vais passer la parole à Mecton pour deux trucs. Alors le premier, c'est Epic Mickey Remastered, enfin Rebrushed, Repaint.
Retapé.
Retapé, ça me fait beaucoup rire.
Les mecs, ils ont appelé les D&Co pour retaper le jeu.
Eh, tu déconnes, s'ils font un jour un remake de Conker, je suis sûr qu'ils l'appellent Retapé.
Mais c'est... ils l'ont déjà fait. Ils ont tout déjà fait.
Et ils l'ont appelé Rechargé.
C'est ça.
Donc ce Epic Mickey, alors moi Epic Mickey c'est le jeu qui m'a fait chier sur Wii, donc est-ce que toi ça t'a
je sais que tu aimes. Faire chier pareil, c'est exactement le même en plus joli. Voilà, merci.
Voilà, bon, mais donc c'est cool ou pas? Parce que c'est
en
ça
plus
que
joli, ouais,
c'est cool, c'est un petit jeu d'aventure avec des petites énigmes à base de j'ajoute des éléments du décor ou j'en enlève. Si vous aimez un peu l'univers Disney années 40, donc les débuts quoi, Patty Buller, Mickey. Oswald, pour les vraiment plus vieux. C'est le kiff, des petits clins d'œil à droite à gauche. Voilà, bonne ambiance, très accessible, et des choix moraux, parce que c'est Warren Spector, donc le mec de Deus Ex, qui était à la Real ou à la Prod,
je crois.
Ouais, donc, les petits choix moraux, c'est soit t'es très gentil, soit t'es très méchant. Hein.
C'est pas racheter Marvel ou racheter Star Wars ?
Non, c'est soit tu utilises la peinture, soit tu utilises le dissolvant. C'est la même chose dans la suite d'ailleurs, qui n'a pas de remake.
Voilà, et comme c'est Warren Spector, il y a aussi des phases d'infiltration avec des cyborgs. Voilà. c'est important.
Tu déconnes, mais.
Voilà. Et donc la deuxième vieillerie un peu rigolote, qui est une vieillerie qui n'est pas vraiment une vieillerie, NES Remix. En fait, non, NES World Championship. En fait, non,
putain,
NES Remix.
Ça, j'allais faire la blague.
En fait, on a eu NES Remix, on a eu NES Remix 2. Là, c'est pas NES Remix 3, mais c'est la même idée, c'est NES World Championships. Donc, le jeu qui était vu par Nintendo comme une espèce de gros jeu bonus, en fait, avec plein de morceaux de NES dedans, mais streamliné de ouf. C'est-à-dire que t'as genre un défi sur un niveau, et puis voilà.
Voilà, et donc ces défis vont de, allez, une seconde et demie à torcher le premier Mario en le plus vite possible, quoi. Ou le premier donjon du premier Zelda, ou enfin tu vois des conneries comme ça. C'est très très cool, et si vous voulez voir des speedruns ou vous y mettre, c'est la recette parfaite. Donc des petits challenges hebdomadaires avec différents niveaux de difficulté, des badges à collectionner, plein de conneries, des vidéos à revoir, des conseils de pros, ce genre de conneries. C'est très très cool.
Des trucs qui font plaisir.
Voilà.
Je vais passer la main à Renard pour un petit jeu un peu particulier, parce que c'est un jeu, mais pas un jeu à la fois. Enfin, c'est un peu bizarre. Nightmare Kart. Alors, je l'ai classé dans les vieilleries, parce que ça, c'est un...
C'est le nouveau nom de Crash Team Racing.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Alors, c'est...
C'est tu m'arrêtes un Toy Story Racer.
Voilà. Tu m'arrêtes si j'ai de la merde. C'est les mecs qui avaient fait le Bloodborne D-Master qui ressemblait à le Bloodborne PS1, dont on avait d'ailleurs parlé, me semble-t-il, qui se sont dit on va faire un jeu de cartes basé sur le même univers graphique.
Cartes, les voitures. Hein.
Oui, pas un jeu de cartes. Non, mais ils auraient pu faire un jeu de cartes. Ouais. Un kart racer, tu vois, un jeu de course. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble, quoi? Parce que bon, ça a l'air quand même très bizarre, quoi.
Oui, ça a l'air très bizarre. Alors, en fait,
c'est très bizarre.
En fait, à l'origine, c'était juste un remake de Bloodborne. Et il y avait une blague dans la communauté, c'était Bloodborne Kart. Du coup, la dame qui avait fait le remake s'est dit, je vais faire un poisson d'avril. Et elle avait annoncé Bloodborne Kart, poisson d'avril. Mais comme tout le monde a adoré, elle s'est dit... bon bah tant pis, on fit le jeu. Et donc elle a commencé à taper sur Bloodborne Kart. Voilà. Le problème, c'est que à peine un mois avant la sortie du jeu, qui devait être gratuit, Sony se ramène et dit oula, non. Du coup, bah ils ont dû faire un rebranding à la dernière minute, et donc Bloodborne Kart est devenu Nightmare Kart, plus inspiré de... comment il s'appelle ce jeu, ce film
de merde.
Vampire Hunter, un vieux film de un vieux film animé de d'un chevalier vampire qui chasse, bref. Donc
confus,
ça ressemble, oui voilà, j'ai confus parce que j'ai pas mes notes. Donc ça ressemble à Bloodborne, mais c'est pas Bloodborne. C'est Legally Distinct Bloodborne.
Légalement, Sony ne peut rien faire.
Voilà, légalement, Sony ne peut rien
faire. Ne peut pas le fermer en 2 semaines après avoir mis 150... Attends, pardon, non, excusez-moi, je suis trompé de note.
Non, ils peuvent pas.
Pas encore.
Non, ils peuvent vraiment pas. Toutes les références ont été bien nettoyées. Le personnage n'est pas du tout le même. Par contre... quand on sait qu'à l'origine, ça devait être Bloodborne Kart PlayStation, on reconnaît quand même quelques concepts. Genre, par exemple, tu as l'épée qui devait être la Midnight Greatsword, qui te sert pour le boss final secret, que tu peux collecter les morceaux. Bref. Et donc, comment ça joue? Est-ce que vous avez déjà joué à Toy Story Racer?
Alors non, mais je suppose
que... Non, parce
que
c'était sur une moins bonne console.
Ça doit ressembler vaguement à Mario Kart, malgré tout.
Presque. J'ai à peu près Mario Kart, oui. La différence, eh bien, c'est que c'était sur PlayStation, et donc il y avait les graphismes de la PlayStation, et c'est à peu près tout, en fait. Je fais que vous narguez voilà. Depuis tout à l'heure.
Mais en fait, c'est vraiment c'est un Mario Kart.
Les textures
voilà, c'est vraiment un Mario
on
Kart.
On a les textures qui se déforment.
Il y a les textures qui se déforment, c'est bien fait. Hein.
Le Bloodborne D-Master, il est assez ouf hein, de ce point de vue-là. Oui. Tu croirais vraiment... Alors, c'est recréé avec des technologies modernes, mais tu
oui,
croirais vraiment...
Oui, sous Unreal Engine 4,
exactement.
D'ailleurs.
Mais tu croirais vraiment que ça tourne sur PS1, hein. C'est assez ouf. Hein.
Presque.
Alors, il y a des trucs qui le trahissent parce que il y a des filtres de textures qui ne peuvent pas exister, il y a des distances
oui.
d'affichage qui sont un peu...
Oui.
Voilà. Mais, de loin, en plissant les yeux, si on ne te le dit pas, tu te dis « Ah, bah, c'est un jeu PS1 perdu, quoi ».
Oui, c'est voilà. Un peu comme Shovel Knight avec la NES, quoi.
C'est exactement ça. Sauf qu'il y a tout un tas de trucs qui sont impossibles. Les sprites sont trop gros pour de la NES. Il y a des rotations qui sont pas possibles. Enfin voilà, même concept. Tu plisses les yeux.
Même, je pense qu'au niveau du compte de triangle, elle a des restrictions. Mais parfois, il faut un peu dépasser les restrictions. Mais aussi, tu as un filtre vieille télé CRT.
Qui est assez marrant d'ailleurs.
Voilà.
Il n'est pas très
oui.
crédible en fait.
Oui.
C'est plutôt le souvenir que tu avais de la télé CRT que le vrai fil télé CRT. C'est
ça. Aussi, j'aimais une critique, c'est que je trouve qu'il y a trop de jittering. C'est tout. J'ai joué sur la PS1, j'ai grandi avec la PS1, il n'y a pas autant de jittering. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais dans Bloodborne PS1, tu pouvais régler ça, donc c'est pas un problème. Là, c'est moins réglable. Mais tu peux régler tous les effets, en fait. C'est cool, sinon.
Alors, aussi au rayon vieillerie, il y a Zergy qui, tout l'été, nous a arrosé de « Bon, ben, je fais le randomizer, le Link to the Past randomizer avec tel seed. Que, » Qu'est-ce qui s'est passé, Zergy? Tu fais des randomizers, maintenant?
Oui, en fait... tous les ans, depuis quelques années, je fais ma partie annuelle de A Link to the Past, donc forcément, c'est un jeu que je connais quand même plutôt bien. Et au début de l'été, je me suis dit, bah vas-y, on va essayer de faire du randomizer comme ça pour la déconne. Alors, c'est un peu chiant, faut passer. Enfin, quoi que t'es pas vraiment obligé de passer par leur Discord, tu peux l'avoir aussi sur leur site officiel. Tous les jours, t'as un défi quotidien qui t'est proposé et voilà, je m'y suis mis, j'y jouais à peu près tous les jours quand je pouvais. Même des fois au boulot quand j'étais de nuit. Voilà, le respect est mort.
J'espère que ton employeur n'écoute pas le podcast, j'en doute, mais voilà.
Des fois c'est un peu raide, parce qu'il y a des variables qui permettent de rendre le jeu plus ou moins difficile, et des fois t'as vraiment des trucs de pute. Genre, j'en ai eu une. Alors il y a des... Enfin, il y a différents objectifs selon les sites. Des fois, il faut juste tuer Ganon. Des fois, il faut arriver au réceptacle d'Excalibur. Des fois, il faut faire de la chasse à la Triforce. Tu avais un morceau de Triforce à trouver, puis tu les donnes à quelqu'un, le jeu se finit. Et à un moment, je crois que c'était il y a 3-4 jours. Objectif, récupérer des morceaux de Triforce. Par contre, dégaze des ennemis aléatoires. Et même avec l'armure bleue, t'avais genre les petites merdes qui se baladent dans la montagne de la mort, là, qui se transforment en pierre, et te bousillaient 8 cœurs d'un coup.
La vache!
Ah ouais, mais le randomizer ne rigole pas, hein.
Ouais, non, mais là, c'est vraiment random, quoi.
Faudra que je me fasse le randomizer de Majora's Mask 24.
Oui, de toute façon, il y a des randomizers pour tout.
Il y a des randomizers partout.
Ils en ont même pour les Metroid Prime.
Putain, oui, alors, c'est si vrai que vous ça, voulez, c'est... justement, il y a un randomizer Zelda 3 plus Super Metroid. Vous allez sur le site samus.link et vous pouvez en générer un.
C'est très rigolo parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a un moment, tu rentres dans une grotte, une maison, un truc, et boum, tu te retrouves dans Super Metroid. Et pareil, tu rentres dans une grotte, un machin, un truc, et tu te retrouves de nouveau dans.
Du coup, t'as des objets de Zelda dans Metroid et vice-versa.
Exactement, et inversement. Et alors, tu peux pas les utiliser l'un dans l'autre, mais faut aller les récupérer dans l'un pour les remettre dans l'autre.
Si tu trouves des missiles dans Zelda, ben dans Metroid, tu pourras les utiliser.
Il y a aussi un randomizer qui combine Ocarina of Time avec Majora's Mask. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est marrant.
Ça pourrait être très intéressant, ça. Il y a beaucoup d'objets en commun, quand même.
Oui, il y a beaucoup d'objets en commun, j'imagine qu'ils prennent en compte. Je veux dire, ça reste quand même les deux jeux Zelda sur 64, donc ça fait quand même...
Après, c'est le même moteur, donc ça peut donner des petits trucs sympas.
Ça peut donner des trucs marrants.
Pouvoir t'amuser avec les
masques.
Aussi,
ça veut dire que tu peux faire le Temple du Feu en Goron, je pense.
Alors, voilà, là, il y a de l'argument.
Ça peut être fun. Ou le Temple de l'Eau en Zora.
C'était pas déjà le cas. Ah non, c'est pas déjà le cas. Monsieur Antix, qui a fait Final Fantasy V, alors la version Pixel Remaster, mais ça n'empêche pas que c'est quand même une vieillerie.
Bah, c'est une vieillerie, du coup ça va me permettre de parler un peu des Pixel Remaster au passage.
Oui.
Yes.
Alors du coup, déjà FF5, donc deuxième Final Fantasy de la Super Nintendo, un petit peu l'oublié, puisqu'il est sorti entre le 4.
Pas sorti en Occident, si je dis pas de bêtises.
Il est pas sorti en Occident, et même au Japon, je sais pas si c'est le plus populaire. Alors après au Japon, ils sont pas aussi fans du 6 que nous en Occident. Mais bref, c'est pas le sujet. Final Fantasy 5, pardon. Donc le deuxième épisode Super Nintendo, le dernier a vraiment utilisé un système de job. D'ailleurs, si vous avez joué à Bravely Default, vous allez voir que la majorité des jobs de Bravely Default viennent de ce jeu. C'est vraiment l'inspiration principale de cette série. Et ça raconte l'histoire assez classique des héros de la lumière élus par les cristaux pour empêcher le monde d'être détruit par les forces du mal. Donc ça a l'air assez standard au début et... Bon, c'est pas le pitch de Final Fantasy le plus complexe, on n'est pas sur des trucs aussi dramatiques que le 6 notamment, c'est assez léger, mais il y a des moments assez chouettes dans le scénario, le méchant est très très cool, et oui, c'est extrêmement efficace dans ce qu'il fait, Il va passer beaucoup de temps à mettre la vie dure au héros, il y a des bons petits twists sympas, et le gameplay de classe est vraiment très très cool avec beaucoup de customisation, des possibilités de faire des combos extrêmement pétés, mais ce qui est toujours le truc fun dans les jeux comme ça. Et je pense que le jeu prend vraiment en compte parce qu'il n'hésite pas à balancer des boss assez retors, limite, à la limite du puzzle. Donc il y a vraiment un système de classe qui est assez chouette et qui est vraiment pris en compte par le jeu. Et du coup, l'édition Pixel Remaster, qu'on pourrait notamment appeler, ben, c'est comme le jeu dans tes souvenirs, mais en fait pas vraiment, c'est quand même vachement plus joli. C'est tout le projet de Square Enix de refaire les six premiers avec un style qui se rapproche de ce qu'on a pu avoir dans les jeux d'origine, notamment les épisodes Super Nintendo, hein, c'est assez basé là-dessus, notamment pour les trois premiers sur NES. C'est vraiment un super travail, bien meilleur que ce qu'ils avaient pu faire sur les jeux mobiles absolument dégueulasses du 5 et du 6. C'est accompagné de plein d'options, de qualité de vie encore une fois, donc j'en avais parlé sur Mystery of the Emblem, là c'est inclus dans le jeu, la sauvegarde automatique, la possibilité de retirer les combats aléatoires, d'augmenter l'XP gagné, et ça rend le jeu assez cool, notamment la sauvegarde automatique qui se fait à chaque changement d'écran. Et assez chouette dans un jeu où tu peux tomber sur un groupe d'ennemis qui peut te wipe en quelques tours parce que pas de pot, c'est eux qui ont l'avantage et qui ont décidé qu'ils allaient te casser la gueule.
Ah oui,
Là, je suis...
ça peut être bourrin.
Ça peut être bourrin, mais en même temps tu peux être très bourrin aussi de ton côté, ce qui est très très chouette. Là, je suis quasiment à la fin du jeu, il doit me rester le dernier donjon et peut-être une ou deux invocations un peu cachées à récupérer. Ça se finit en, je pense, 25-30 heures en prenant son temps. Et c'était vraiment très très chouette. Ça m'a presque donné envie de refaire le 6 dans cette version Pixel Remaster. D'autant que le 6, ils ont même refait la scène de l'opéra.
Oui, je peux t'en parler, hein, je les ai.
Et dernier petit truc pour les Pixel Remaster. Ouais,
toutes
voilà,
les musiques sont orchestrales sur tous les jeux, ça c'est très très cool.
ils ont refait toute l'instrumentation de toutes les musiques, ce qui est très très chouette. Et ça s'entend en jeu, hein, vraiment, elles sont. Pareil, c'est comme ça que tu pensais qu'elles étaient. Puis après, tu
Et tu
réécoutes les originales,
verras,
tu fais Ah non, en fait.
la scène de l'opéra est en français.
Oui, alors pour le coup, Final Fantasy VI, c'était un peu plus attendu sur la musique. Hein.
Alors, je vais vous parler très 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 vite de The Tourist. Alors, je sais pas si vous êtes familier, c'est Shinen, les gens qui ont fait Fast et Fast RMX, qui sont donc des jeux de course à l'origine, et qui là ont fait une espèce de petit jeu d'aventure tout en voxel, en fait, c'est vraiment des pixels volumétriques. Donc tout est carré, tout bouge, tout est rigolo. Et l'idée de The Tourist, c'est vous visitez des petites îles, et sur ces petites îles, il se passe des petites aventures, et ensuite vous allez visiter une autre île sur laquelle il se passe des petites aventures, et ainsi de suite. Et donc, c'est un jeu un peu con. C'est vraiment un jeu d'aventure très très basique, mais qui est suffisamment malin et intelligent pour te garder accroché pendant 2-3 heures. On en a déjà parlé sur le dojo, et notamment Tardi qui avait fait un petit test il y a quelques années, puisque le jeu date un petit peu, c'est pour ça qu'il est classé dans les vieilleries. C'est vraiment en 3 heures, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on fait plein de petites activités annexes sans trop se préoccuper, c'est très joli, on s'amuse bien, il y a des jolies musiques, et puis après ça se termine, et ça essaie pas d'être grandiloquent ou de raconter une histoire qui pète 3 fois plus haut qu'elle a le cul, ou même de raconter une histoire tout court d'ailleurs, ça te dit juste, bon bah c'était cool. Voilà, c'est une petite aventure, le truc, c'est viens, on va faire une aventure. Toi, c'est vraiment le gamin de 5 ans qui arrive et qui dit, allez, viens, on va faire une aventure. Puis tu te balades dans la forêt, puis t'as fini, puis c'est cool, c'était une aventure. Voilà, The Tourist. Franchement, si vous arrivez à le choper à pas cher, moi, je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment très 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 chouette. C'est un petit jeu, par contre, hein, vraiment, ça se finit en, allez, 2h30, 3h, grand max. Peut-être que si on fait toutes les activités annexes, on peut pousser à 4h, mais ça n'ira de toute façon pas beaucoup plus loin.
Et comme on dit sur le dojo, vaut mieux une petite tous les jours qu'une grosse tous les 6 mois.
Exactement. Et là, ça fait bien plaisir, quoi. C'est le truc, ça se finit en un samedi après-midi et t'es content derrière. Je vais laisser Renard pour l'avant-dernier jeu de la sélection parler de Overblood sur PS1, qui est donc classé dans les vieilleries. Parce que c'est sur PS1. Et j'espère que t'as honte de parler d'un jeu PS1.
Absolument pas. Mais en fait, c'était juste, j'avais vu ce jeu, ça venait sur eBay. Il coûtait 15 balles, je me dis, bah tiens, à mon anniversaire, je vais le demander. Et du coup, j'ai un peu trifouillé, et en fait, j'ai appris qu'il avait son petit culte derrière, son petit following, malgré le fait qu'à l'époque, c'était fait descendre par la critique. Alors, qu'est-ce que c'est que Overblood? Eh bien, c'est un survival horror qui est sorti 4 mois après Resident Evil.
Allez, ah le timing, ah le bad timing.
Le bad timing, surtout que c'est un, du coup, c'est un, il est sorti 4 mois après Resident Evil, mais il s'inspire de Alone in the Dark, pas Alone in the Dark, The New Nightmare, mais bien le premier Alone in the Dark. Donc, il sort 4 mois après la référence, en se basant sur une version retardée. Donc, ça n'allait pas voler l'eau, hein, malheureusement. C'est dommage parce qu'il a plein d'idées intéressantes. Par exemple, tu as les caméras comme dans Resident Evil, c'est-à-dire qu'elles sont fixes et tu as un peu cinématique. Mais tu as un bouton pour changer la vision. Tu peux être du coup en vue troisième personne, qui est correct, ou vue à la première personne. Bon, t'as les contrôles de tank, donc c'est bien pratique parce que parfois tu vois pas trop où est-ce que tu veux aller et du coup, bah, vue subjective. L'autre truc, c'est que du coup, c'est un jeu de SF qui s'inspire un petit peu de Alien. Le début, tu te réveilles dans d'une salle cryogénique et c'est juste la salle cryogénique de Alien en fait. Et 2 minutes après, tu trouves ton compagnon qui est un robot qui s'appelle, je ne déconne pas, Pipo, c'est son nom.
Oui, bien, bon, parfait.
Voilà. Et son design, c'est vous prenez la tête de R2-D2, juste la tête, vous la foutez sur un tripode et vous rajoutez ensuite une énorme pince mécanique sur le dessus et vous avez votre robot de compagnon.
Putain.
Voilà. Bref, c'est pas juste un bulldozer de chantier là?
Si, c'est un bulldozer de chantier, mais miniature, tu sais. Il est tout petit. Par contre, un truc intéressant, c'est que du coup, notre protagoniste, Raz, est amnésique.
C'est donc un héros de JRPG.
C'est ça. Est-ce que les animaux de la forêt sont devenus fous?
Je ne sais pas, parce qu'il n'y a que des zombies.
Ah bah voilà. Est-ce que les zombies sont devenus fous?
Que les zombies de la forêt sont devenus fous.
Ah, voilà, il y a peut-être un truc à faire.
En fait, c'est un peu un Alien Isolation PlayStation 1, sauf que t'as pas d'alien. Ballot.
Est-ce qu'il y a l'isolation aussi? Parce que c'est important avec l'hiver.
Oui, il y a l'isolation parce que tu passes ton temps dans une espèce de lieu. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Raz est amnésique et du coup, il va dire un petit peu le truc un peu niais, un peu idiot. Alors que Pipo, c'est un robot, du coup il va être hyper direct au but. Genre par exemple, tu as une salle où tu as une statue qui flotte en décoration. Du coup, si tu prends Raz, parce que tu peux switcher entre les personnages, si tu prends Raz, il va se dire mais comment ça vole, comment c'est possible. Alors que si tu prends le robot, il va dire on peut pas le prendre, va falloir faire autre chose. Ou même juste à côté, tu as une machine à café. Et il va se dire, Raz va se dire, je crois que c'est une machine à café.
Voilà, le mec se souvient même plus de ce que c'est qu'une machine à café, quoi. C'est une amnésie très grave quand même.
Voilà, alors que Pipo va dire, ne peut pas accéder à elle immédiatement. Voilà.
Du coup, il y en a un des deux qui n'a pas été stagiaire, quoi.
Voilà, en fait, Raz a une grande intelligence émotionnelle, mais il n'a pas une intelligence commune, alors que Pipo, c'est un robot, du coup, il n'a que la logique. Ça fait une dynamique intéressante, mais je crois que c'est juste le début du jeu, parce qu'après tu as un autre personnage, mais je suis pas à ce niveau-là. Aussi, un truc intéressant pour noter encore plus la différence entre Raz et Pipo, très vite tu croises des cerveaux dans un bocal. Encore, ça fait 2 fois dans cette émission, je sais pas pourquoi. Mais du coup, Raz, lorsque tu interagis avec ça, il va dire « Mais c'est grotesque !» Alors que Pipo va dire « Rien d'intéressant. » Ça fait une dynamique d'écriture qui est intéressante. Mais malheureusement, okay, le jeu est pas très... il est pas très cool.
Voilà. Donc tu as monopolisé, on est d'accord, tu as monopolisé 5 minutes de temps de parole dans un dojo bar pour parler d'un jeu PS1 médiocre.
Oui,
c'est vraiment fait exprès pour faire chier, quoi, on est d'accord.
Oh bah, c'est toi qui m'as lancé dessus. Hein. Après, je vais dire
tu m'as dit, hein. Moi, tu m'as dit les vieilleries, j'y suis, donc voilà.
Oui, voilà.
Le coudron est chaud, les plumes arrivent.
je vais clore en disant juste que du coup, il y a eu une suite plus longue qui apparemment est plus intéressante. Je ne sais pas, je ne l'ai pas, et il coûte plus cher en plus. Donc
c'est mal barré. Mais voilà, pas inintéressant de toute façon. Alors,
la ludothèque de la PlayStation, je dis ça très sérieusement, il y a peut-être plus de petits jeux à la con comme ça à découvrir que sur N64 par exemple, où il y en avait beaucoup moins.
Il n'y avait pas beaucoup de jeux sur N64, malheureusement.
Au total, la N64, c'est quelque chose comme 300 jeux au total sur...
Ce qui est déjà très bien.
Japon, États-Unis, Europe. Oui, mais ça fait que finalement, tu as vite une idée de la ludothèque, t'en as pas vite fait le tour, mais t'as vite une idée de ce qu'il y a dedans et t'as assez peu de surprises. Alors que c'est vrai que sur PS1, comme il y a quelque chose comme 1500 jeux entre le Japon, les États-Unis et l'Europe, tu peux tomber sur des trucs un peu curieux comme ça, ou des machins bizarres qui essayent des choses, qui réussissent pas toujours, hein, mais qui essayent des choses, et là-dessus c'était peut-être un terrain d'expérimentation un peu plus intéressant que ce que t'avais sur N64. Voilà, on va terminer très rapidement sur un petit jeu, je sais que ça fait très plaisir à Antix, parler de King of Fighters 13.
La bagarre. Ouais.
En fait, il y avait une feinte parce que j'en ai un deuxième à mettre avec, mais ça va, je vais faire un tir groupé, t'inquiète. Cet été, je suis retombé, je suis très jeu de combat, hein, je pense que ça s'est vu sur la saison précédente.
Tout petit peu.
Et cet été, je suis retombé sur des amours de jeunesse. J'ai commencé les jeux de combat avec Street Fighter 4, que j'ai bien aimé, mais à l'époque, les jeux qui m'avaient fait kiffer, c'était King of Fighters 13.
Tiens, préciser, il n'y a pas de... T'as dit des jeunesses, des trucs de jeunesse, il n'y a pas de Street Fighter 4 sur NES, hein, je veux dire ça. Ne...
Bah si, moi je suis sûr qu'il y a une version pirate qui existe quelque part au Brésil.
Oui, probablement.
En vrai.
Il y a Hyper Metroid qui est sorti au Brésil sur Nintendo 64, hein.
Ouais, non, mais bon. Bref.
Donc, à l'époque, j'avais deux amours en jeu de combat. C'était King of Fighters 13 et Blaze Blue. Donc, je suis un peu retombé dedans cet été, puisque les jeux sont disponibles sur PC. Et il y a des versions Switch, si jamais ça vous intéresse. Et pourquoi je les aime autant ? Déjà, c'est sûrement les deux plus beaux jeux de combat en 2D avec des sprites qui existent. King of Fighters 13, c'est vraiment le top de ce qu'a fait SNK sur la matière. Et... juste aller voir les sprites, même les poses de base pour certains personnages sont vraiment magnifiques. Blaze Blue, c'est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus animé. C'est globalement tout ce que les développeurs du jeu aimaient en pop culture japonaise dans les années 2000. Donc t'as un personnage qui ressemble à un mec d'Attack on Titan, t'as une sorcière qui se bat comme Bayonetta, et le héros et son frère, c'est Virgil et Dante Devil May Cry, globalement. Et dans les deux cas, c'est des jeux que je trouve très très fun à jouer, parce qu'ils sont... C'est des jeux qui sont très profonds, mais à un niveau très basique. Tu peux quand même t'amuser parce qu'ils sont assez faciles à en prendre en main. Enfin, c'est beau et en plus c'est super chouette, c'est bien animé, donc t'as l'impression de faire des trucs cool sans faire beaucoup d'efforts. Notamment dans Blaze Blue qui a un système de combo de coups faibles vers forts comme dans Dragon Ball FighterZ. Et dans le cas surtout de Blaze Blue, t'as un contenu solo qui est assez chouette avec dans la dernière version du jeu, qui est Central Fiction. Où t'as un mode story, l'histoire elle est à couche d'or, hein, franchement vous prenez pas la tête, et t'as des petits modes type mode RPG où tu fais évoluer ton perso pour enchaîner des ennemis, et du coup ça permet un peu de découvrir le jeu, dans ce cas-là, les persos qui sont assez uniques, notamment dans Blaze Blue, plus standard dans King of Fighters, mais il y a quand même, dans les deux cas il y a une trentaine de personnages, quand même le quoi de découvrir pas mal de nouveaux persos, des designs assez chouettes. Ouais, j'ai passé un très bon moment à redécouvrir ce jeu, que je recommande si vous êtes curieux, ils sont souvent soldés sur Steam. À mon avis, vous pouvez trouver à 3-4 balles pendant les soldes d'hiver ou un truc comme ça, sans trop de problèmes. Ça vous coûtera pas beaucoup et vous pourrez vous amuser dessus 2-3 heures avec un pote. Vous allez passer un bon moment.
Ça, c'est des bonnes recommandations comme je les aime, tu vois, du jeu qui coûte pas trop cher, mais où bah, c'est un peu une référence du genre, le truc a été peaufiné avec les années, donc en fait, t'achètes vraiment de la qualité... Et tu peux revenir dessus, voilà. Ça, c'est typiquement des recommandations qui me font très plaisir. On va se quitter là, les enfants, parce que cette émission a duré, comme d'habitude, beaucoup trop longtemps, mais c'était bien, c'était une émission de rentrée, ça nous a permis de nous chauffer pour les émissions suivantes. Dans deux semaines, je pense que nous parlerons de Zelda Echoes of Wisdom, puisqu'on aura eu le temps d'y jouer un petit peu.
Ou alors la baguette tradition de la sagesse.
Vice.
La baguette tradition de la sagesse, ouais. Voilà, donc le nouveau Zelda, on en parlera, il y a déjà des copies qui ont fuité.
Oui, le jeu est disponible en ligne pour ceux qui ont des versions, des Switch pas très catholiques.
Des Switch un petit peu problématiques. Mais nous, on reçoit nos copies officielles, enfin nos copies officielles qu'on a achetées avec nos petits doigts musclés, nos petits bras potelés quand même.
Le capitaliste.
Nos copies capitalistes, on les reçoit demain normalement. Mais voilà, bref, donc la prochaine émission parlera probablement de Echoes of Wisdom, et puis après on verra bien. Je vous rappelle que normalement ce vendredi, si tout va bien, et si c'est possible physiquement, il y aura un petit stream justement sur Echoes of Wisdom, un truc de découverte, hein, ça va être le tout début du jeu. Mercredi prochain, Jean Fulgence continue les aventures de Petit Sexe. Dans
non, Legend putain.
Of Zelda The Minish Cap, non mais c'est vraiment, il y avait que 6 lettres, il a été au bout de ce qu'il pouvait faire.
Je précise que je n'étais pas là quand il a nommé, donc je n'ai rien à voir avec ça.
Oui, alors ça restera à démontrer, hein. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, on vous fait des gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines. Salut tout le monde.
Salut.
Bisous. Salut.